Direct en jeu, la radio insolite, hein. Les festivals, le théâtre, le cinéma, c'est ce qu'on voit devant, mais derrière, il y a parfois des choses assez extraordinaires. Et là, j'ai le bonheur, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est à l'origine d'un succès phénoménal dans le monde entier. Je crois qu'il revient de Chine, il repart en Chine. Je suis avec Nicolas Porte. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais ça me paraîtrait assez miraculeux, tu es... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un chef de chœur? Un dirigeant?
Alors voilà, je suis le chef de chœur, le directeur artistique de la Maîtrise Saint-Marc qui a donc participé et qui a enregistré la musique du film Les Choristes il y a 20 ans maintenant.
D'accord. Alors, je vais être un peu basique dans le départ. Une chorale, oui. Qu'est-ce que c'est?
Ah ben, un chœur, parce que une chorale, on dit, ça fait toujours un peu péjoratif.
Oui.
Donc, un chœur, ce sont des enfants ou des adultes, en tout cas des personnes qui se regroupent pour monter des pièces musicales et donc vocales, puisque leur instrument de musique, c'est la voix, à l'instar d'un orchestre qui se retrouve pour jouer des pièces instrumentales. Bien, le chœur, la chorale, ce sont des enfants, donc nous en l'occurrence des enfants, qui se retrouvent de façon régulière et qui travaillent la technique autour de la voix pour monter des œuvres et proposer tout ça ensuite dans le cadre de concerts.
Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que durant le film, tu accompagnais entre guillemets Gérard Jugnot, puisque tu expliquais en particulier que le chef de chœur, ça n'est pas uniquement diriger. C'est pas seulement battre la mesure. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a une relation particulière entre tous les acteurs.
Alors, c'est vrai parce qu'en fait, on va dire que la voix, c'est peut-être l'instrument le plus intime que nous ayons. Et lorsqu'on demande à un chanteur de s'exprimer vocalement, on touche à son intimité, à son histoire personnelle, à sa timidité peut-être, ou en tout cas à son caractère. Et donc, il faut qu'il y ait une relation de confiance, une relation d'amitié. Et il y a tout un travail qui se fait donc dans le cadre d'un chœur pour manager le groupe. Parce qu'il n'y a pas que la technique, je veux dire, un instrument de musique, on peut jouer ses notes, voilà. Et bon, mais la voix, les émotions, on va dire la forme physique, etc., jouent sur le résultat qui va être produit. Et donc, le chef de chœur a besoin d'avoir effectivement une relation privilégiée avec ses musiciens, avec ses choristes. Et c'est ce que j'avais expliqué à Gérard Jugnot au moment où on tournait pour le film. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit d'un soliste qui va se mettre en avant, qui va devoir pouvoir compter sur le chef de chœur qui est là pour l'épauler et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les deux. Quoi.
Est-ce que quand tu as, enfin, il y a eu un casting, il y a eu un appel à candidature, comment ça s'est passé pour rejoindre le film?
Alors en fait, il y a eu comme un casting effectivement au niveau des chœurs. Christophe Baratier et Bruno Coulet ont entrepris un tour de France de chœurs qu'ils avaient sélectionné dans un premier temps sur des dossiers que chaque chœur intéressé avait envoyé. Ils en ont sélectionné une cinquantaine et à partir de là, ils sont allés les écouter sur place, voir comment ça se passerait justement, comment se passait le travail, le son en réalité, parce qu'il y a le son dans les enregistrements, mais on sait... Même il y a 20 ans, on sait qu'on peut modifier les choses, ou en tout cas les améliorer, et la réalité après sur le terrain. Et puis, voilà, je crois qu'ils recherchaient aussi, du coup, le garçon qui pourrait jouer le rôle principal. Mais ça, c'était pour eux déjà plus difficile que ce soit un garçon qui puisse jouer devant la caméra, avoir une voix de soliste, et en plus correspondre au look qu'ils recherchaient. C'était un coup de chance pour eux de tomber sur Jean-Baptiste, qui faisait partie de notre cœur. Voilà, et puis voulait voir effectivement cette relation entre le chef, les choristes et tout ça, parce que finalement l'histoire du film c'est un peu la même chose.
On dit souvent que c'est le succès phénoménal de la musique qui a permis au film de fêter aujourd'hui ses 20 ans.
Alors je pense qu'il y a, la musique est un des personnages, on va dire, du film. Il y a Jean-Baptiste Monnier, il y a quand même aussi Gérard Jugnot, que l'on voyait plus dans des rôles plus de comédie. Donc on a découvert, un peu à l'instar de Monsieur Batignol, un acteur qui savait aussi jouer des choses plus sérieuses, entre
oui,
guillemets.
Fait, plus profondes. Hein,
Voilà, plus profonde. Et alors la musique est quelque chose qui a effectivement perpétué la mémoire du film, parce que la musique, elle reste et les gens continuent à la chanter. Un film, il peut être très très beau, on peut le voir, on peut garder des images en mémoire, mais ce ne sont que des images en mémoire. La musique, on continue à l'écouter, la musique, on continue à la chanter, tout le monde fredonne Vois sur ton chemin ou Caresse sur l'océan. Donc effectivement, la musique permet cette longévité. Pour le film, et ce qui permet aujourd'hui, donc, du coup, de pouvoir célébrer ce 20e anniversaire.
En préparant cette interview, enfin, j'ai vu qu'il y avait un comparatif avec la musique d'Ennio Morricone, de Georges Delerue, en passant par Michel Legrand, Nino Rota. Est-ce que tu avais conscience au moment où tu as commencé à préparer tout cela, est-ce que tu avais conscience que 20 ans plus tard, tu allais jouer dans la cour des grands?
Alors, bah, pas du tout, parce que déjà, dans un premier temps, on pensait même pas que le film aurait le succès qu'il a eu au moment où il est sorti. Donc, au moment du tournage, au moment des enregistrements, c'était de se dire, bah, c'est un film intéressant, un remake de La Cage aux Rossignols avec Noël et le chanteur à la croix de bois, 50 ans plus tôt. Voilà, et qui y aura comme public, qui cela peut-il intéresser? Et finalement, on est parti avec cette idée. Au moment où le film a commencé à sortir dans les salles et qu'on a vu effectivement cet engouement et tout ce qui s'est passé après avec les plateaux de télévision pour nous, enfin avec des concerts, des tournées de partout, on se dit, ah oui, là effectivement, il s'est passé quelque chose. Mais au moment du tournage, au moment où on a travaillé sur ce projet-là, on était bien loin d'imaginer qu'effectivement, 20 ans après, on en parlerait encore.
Alors, ce qui est original, je l'ai dit en ouverture, c'est que tu reviens de Chine et tu repars en Chine. Je crois qu'il y a 45 dates de programmées en 2024, c'est bien ça?
C'est ça, en fait. Il y a 45 dates déjà qui sont programmées sur l'année 2024. On fait ça sous la forme de quatre tournées.
Oui.
En fait, il y a le 20e anniversaire du cœur et il se trouve aussi, c'est le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France
D'accord.
cette année 2024. Donc, en fait, nos concerts sont aussi placés sous l'égide de l'ambassade de France à Pékin et de l'Institut français. Donc, c'est vrai qu'on en profite pour faire aller à la rencontre, en fait, de davantage de personnes dans le pays. Bon, qui est un grand pays, on n'en aura jamais fait le tour, mais 45 dates, en sachant qu'on a entre 3 et 4 000 personnes par date. Voilà, on est un grand nombre de personnes qui vont nous entendre au cours de cette tournée.
Les choristes ont quel âge à peu près?
Alors, de 9 à ceux qui voyagent de 9 à 16 ans.
Ah oui, donc moi je suis disqualifié pour aller faire la tournée en Chine, quoi.
Oui, malheureusement. Hein. Malheureusement. Ouais.
Parce que là, est-ce que c'est une activité plaisir ou on est carrément aux portes du professionnel? C'est un peu la question que je me posais.
Alors, il faut que ça reste une activité plaisir, mais il faut aussi savoir que pour le plaisir qu'on aura à faire des belles tournées comme on les fait, ça passe par un travail sérieux et quasiment professionnel, en tout cas dans la démarche. Parce que les gens qui achètent un billet d'entrée pour venir nous écouter, ils ont droit à avoir de la qualité. Mais aussi, finalement, c'est apprendre aux enfants qui font partie du chœur que la rigueur, le travail est payant, que nos séances de répétition, elles sont faites pour travailler, qu'on a du plaisir dans l'effort, qu'on a du plaisir quand on chante bien, qu'on a du plaisir quand les gens nous encouragent en nous disant que c'était beau. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que c'est apprendre tout ça. C'est plus tellement à la mode, on va plutôt sur des choses qui vont à la facilité. Alors je trouve qu'un point de vue pédagogique, c'est au contraire quelque chose de très bien pour les enfants.
D'accord, ok. Quand je vois ça, je me dis, mais à la limite, maintenant quelqu'un, un metteur en scène, ou plutôt un réalisateur, a plus intérêt à globaliser aussi bien la réalisation du film, mais aussi à bien choisir sa musique. Il y a certains films qui sont restés aussi mémorables par rapport à leur musique, mais la musique est un des éléments importants du cinéma.
Ah oui. De toute façon, bon, indépendamment des films de comédie, on voit très bien que les grands films, quels qu'ils soient, même, bon, par exemple, si on prend les films qui ont été produits par Jacques Perrin sur ces films animaliers, toutes ces choses-là, bien évidemment que la musique est un support extrêmement important, qui valorise la scène, qui valorise l'histoire, et qui est, lorsque ce sont des belles musiques, bah, si on prend le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, par exemple, C'est aussi la musique qui permet qu'on se souvienne encore longtemps, longtemps du film et nous permet de revenir finalement au film quelques temps après. Oui, c'est très important. Ouais.
Quand on a vécu un truc comme ça, est-ce qu'on a envie d'en faire un deuxième? Est-ce qu'on se dit, oh, quand est-ce que j'aurai la chance d'en faire un deuxième?
Je pense pas parce que, en fait, bon, si ça se présente, pourquoi pas?
Oui.
Mais il faudrait pas que le projet soit le même parce que quand on est dans la redite.
Oui.
Et dans le fait, bon, ça marchait un coup, refaisons un deuxième coup parce que comme ça, c'est le côté un petit peu mercantile. Non, faudrait vraiment que ce soit un vrai projet. Mais pourquoi pas? Disons que si jamais un réalisateur, metteur en scène, demande le cœur pour interpréter des pièces dans le cadre d'un film, même si le film ne parle pas spécialement de voix d'enfant ou autre chose, ça on le ferait avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de, on cherche à faire ça ou pas. On prend un peu les choses comme elles viennent et si ça devait se présenter, pourquoi pas. Mais il faut pas forcer les choses non plus.
D'accord. Si je dis pas de bêtises, toujours, il y a une grande tournée qui se prépare au deuxième semestre 2024, qui va
Ouais.
aller en direction de Rouen, de Dijon, qui va venir à Lyon, qui va être à Lille, à Bruxelles, un peu partout. Au bout de 20 ans, tu as toujours ce même pétillement quand tu diriges?
Alors, cette tournée de concert là, c'est pas nous qui la faisons, hein. Des ciné-concerts, c'est pas nous qui la faisons. C'est une grosse production qui a tous ses artistes, instrumentistes, etc. Et les enfants, je crois je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont voilà. Donc c'est pas nous parce que d'abord, d'une part, on sera en Chine à ce moment-là, c'est la
D'accord.
première chose, et que les dates de cette tournée là, c'est entre le 15 octobre et le 10 novembre, je crois.
C'est
Donc
ça.
nous, on n'est pas disponible. Voilà. Et moi, on était un petit peu approchés pour ce projet-là, mais moi, je pense que comme les gens vont revoir les images, ils vont forcément comparer. Par exemple, la voix de Jean-Baptiste, ça sera pas Jean-Baptiste, ça sera l'enfant qui aura été choisi pour ça. Et je me dis, nous, on a fait ce qu'on a fait. Maintenant, si d'autres veulent prendre le relais pour les ciné-concerts, choses comme ça, c'est bien. Mais moi, j'ai pas envie de remettre les enfants sur un remake, disons, de la même chose où on va se dire, ben, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. Voilà, comme ça, le cœur qui va faire ça, il est différent et c'est mieux pour tout le monde, je pense.
D'accord, oui, c'est vrai que c'est un peu, ça peut permettre de, ouais, de faire un
Voilà.
comparatif qui n'est pas toujours, comment dire, bien judicieux.
Voilà. Hein,
D'accord.
ça c'est. Nous, on l'avait déjà vu quand on a commencé à tourner en 2004-2005, quand c'était pas Jean-Baptiste qui était sur les concerts avec nous parce qu'il pouvait pas faire tous les concerts. Bah déjà les, alors qu'il y avait des, j'avais des garçons qui chantaient très très bien et qui reprenaient le rôle sans aucun problème. Il y avait une déception de la part du public parce qu'en fait, non seulement ils voulaient entendre la musique, ça c'était très bien, mais l'autre partie de ce qu'ils venaient voir, c'était Jean-Baptiste. Et du coup, à partir du moment où c'est pas Jean-Baptiste, ben ils n'avaient pas l'impression d'être lésés, mais c'était moins bien
Ah, tout à fait, complètement.
eux. Du coup, je me dis que là, si c'est une autre chorale ou un autre chœur qui vient, je sais pas où, je crois qu'ils le composent. C'est un casting, ils le composent spécialement pour ça. Ben c'est très bien parce que c'est des enfants qui ont fait ça, comme d'autres enfants chantent aujourd'hui les chansons des films des choristes, mais il y aura du coup moins de comparaisons, je
D'accord. Où se
pense.
trouve caché le disque de diamant? Je rappelle que c'est 1 million d'exemplaires vendus.
Ouais, il est dans mon bureau, dans mon bureau,
Ouais.
à l'endroit où on répète avec les enfants, etc. Le premier disque de platine, le premier le disque de diamant. On a eu à nouveau un disque de platine après. Pour des Noëls, quelques années après. Donc, oui, on garde tout ça précieusement. Hein, c'est l'histoire du cœur. Et ben, quand j'aurai un successeur ou les successeurs qui viendront derrière retrouveront ces souvenirs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, 1 million d'exemplaires physiques, ça n'existe plus, on va dire.
C'est quasiment.
Ça n'existe plus. Ouais. Voilà.
Bon, allez, dernière question. Si je veux candidater, est-ce qu'il y a une période? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre?
Alors, on recrute toute l'année. C'est-à-dire que si un enfant croise notre route et se dit, bah, tiens, ça pourrait m'intéresser, est-ce que je peux intégrer le chœur, il n'y a pas de problème. Il peut nous rejoindre en cours d'année, hein, prendre le train en route, comme on dit. Il va passer une petite audition et un rendez-vous avec ses parents. À partir de là, on va déterminer sa motivation, etc. S'assurer qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème vocaux. Hein. C'est pas la peine de lui faire croire qu'il va faire le tour du monde s'il a des nodules, des polypes ou je sais pas quoi. Voilà. Après, s'il chante pas très bien, ça c'est pas grave parce qu'il vient pour apprendre. Hein. Donc le cœur est vraiment ouvert à tous les enfants qui ont des disponibilités pour ça et qui ont envie qui ont envie de s'investir dans le projet et ils sont les bienvenus.
Ah oui, j'ai oublié une question importante. Évidemment, le chœur n'a pas comme programme que les choristes. Il y a plein d'autres choses aussi.
Ah bah oui.
J'avais oublié, excuse-moi, j'avais oublié, c'est important.
Oui, parce que les chansons des choristes, si on chante l'intégralité de ce qu'il y a dans le film, c'est 15 minutes dans un concert, hein. Donc, quand on va en Chine, on chante beaucoup de chansons françaises traditionnelles ou du Aznavour, du Piaf, parce que les Chinois sont très friands. On continue à chanter notre répertoire classique. Sacré classique qu'on a toujours chanté avant les choristes et qu'on a continué à faire après. On chante aussi des chants des pays dans lesquels on se rend. Par exemple, là, en Chine, on a deux chants chinois dans notre répertoire, ce qui nous permet de rencontrer des petits Chinois, de chanter avec eux. Et eux, ils apprennent et chantent avec nous, Vois sur ton chemin ou d'autres choses en français. Voilà, donc c'est un répertoire très, très varié. Très varié, très, on va dire, de l'origine du Moyen Âge jusqu'à la musique contemporaine du 21e siècle.
Alors, finis juste sur un truc qui est important, c'est-à-dire que quand les enfants partent faire ce tour du monde, ils ont des cours entre les concerts. J'ai bien aimé un commentaire d'Elisa Journet qui disait: j'ai passé mon bac blanc au Liban. Donc ça veut dire que
C'est ça.
c'est on ne sacrifie pas ses études, on joint
Non.
l'utile à l'agréable.
Voilà. Lorsqu'on a du temps qui tombe sur le temps scolaire pendant nos tournées, effectivement, les enfants, on organise des séances de travail, éventuellement s'il y a des évaluations à faire, ou là, en l'occurrence, un examen blanc, on les fait, on l'organise dans les journées de nos tournées. Puis aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a de la technologie qui nous permet d'accéder facilement à ce qui a été fait au collège, dans les écoles. On peut renvoyer au professeur ce qui a été fait dans le cadre de nos séances de travail, et ça, en plus, sans tenir compte du décalage horaire. Donc c'est bien simplifié maintenant, même par rapport à il y a 20 ans. Voilà.
Ok, bah écoute, moi je veux te remercier après ces quelques minutes pour montrer que tout compte fait, la musique peut être très importante dans la conception d'une réalisation cinématographique. Plein de bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Ton rêve peut-être?
Ouais, moi, que ça continue. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens partout. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, apporter cette musique, ces émotions avec les voix, retrouver un petit peu l'ambiance justement du film Les Choristes. C'est ma passion. Donc, pourvu que ça dure.
Merci à toi.
Merci beaucoup.